franceinter.fr.
Voici votre revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
À la une ce matin, la 6e conférence de presse de François Hollande.
Et une presse peu amène à son endroit avant cet exercice. Une presse qui relève notamment les changements de pied de François Hollande sur les quelques sujets phares attendus ce matin à l'Élysée. Formules et sobriquets fleurissent d'abord au sujet de ses possibles annonces sur les impôts. Impôt, le magicien dose. Dose, pas comme le titre du roman ou le film pour enfants, mais comme la dose de poudre de perlimpinpin. C'est le quotidien libéral L'Opinion qui ose le jeu de mots et traite François Hollande de David Copperfield de la fiscalité française. Tandis qu'il agite d'une main sa baguette au-dessus d'un avis d'imposition, de l'autre, il croise les doigts dans le dos pour que la croissance pleuve, écrit le journal, qui s'inquiète de voir l'impôt sur le revenu se concentrer sur un nombre toujours plus réduit de foyers, quitte à devenir exponentielle. Lecture radicalement différente, pour ne pas dire opposée, sur le site Mediapart sous la plume de Laurent Mauduit. Laurent Mauduit qui considère, lui, que c'est une véritable contre-révolution fiscale qui est en marche. Les modalités restent à préciser, dit-il, mais la philosophie fiscale du président est déjà connue. Comme il n'y a que 50% des Français, les plus favorisés, qui paient l'impôt sur le revenu, eh bien, ce sont eux qui profiteront du nouveau recul du seul impôt citoyen, écrit Laurent Mauduit. Ce torpillage en règle de cette fiscalité progressive, allié au regret de François Hollande sur l'augmentation de la TVA de Nicolas Sarkozy, signe, affirme-t-il, une politique clairement réactionnaire. Aujourd'hui en France, Le Parisien parle, lui, ce matin de président attrape-tout sur ce sujet des impôts, comme sur celui attendu d'une plus grande flexibilité dans les relations du travail. Un président qui rompt avec la posture gaullienne d'être au-dessus des partis. François Hollande, écrit le journal, préfère lui être le président de tous les partis, quitte à brouiller un peu plus les clivages idéologiques droite-gauche.
La presse insiste ce matin, Hélène, sur un autre changement de pied de François Hollande.
Oui, le président devra en effet annoncer ce matin son assentiment à l'extension des frappes en Syrie de la coalition contre le groupe État islamique. Il s'y était jusqu'alors refusé. Alors, trois types de commentaires, les pour, les contre et les autres, avec comme point commun, de toute façon, ça ne devrait pas changer grand-chose. Alors, les pour d'abord, il était temps, s'exclame l'éditorialiste du Figaro, Philippe Gély, temps d'abandonner une hypocrisie qui a contribué à la résilience de Daesh. Les contre, c'est une erreur stratégique, analyse dans Libération François Hesbourg, spécialiste en géopolitique, car l'outil aérien n'est pas en soi de nature à fournir une réponse à ce qui est d'abord un immense défi politique. Certes, ces bombardements se prêtent admirablement, dit-il, à la mise en scène médiatique, mais mieux vaudrait mettre l'accent sur le renforcement des services de renseignement français et sur le recours aux forces spéciales contre les touristes du djihad. Moins spectaculaire, oui, mais probablement plus efficace. Contre aussi, l'éditorialiste des dernières nouvelles d'Alsace qui note que Paris va se retrouver en position d'allié objectif du régime syrien avec pour partenaires l'Iran et la Syrie. C'est Bachar el-Assad.
Et la Russie.
Et la Russie. Oui. J'ai dit la Syrie, c'est donc la Russie. C'est Bachar el-Assad qui peut jubiler, assène les dernières nouvelles d'Alsace. Il a tenté si bien créer le chaos que toutes les barrières morales ont sauté. Et puis enfin les autres, ceux qui estiment que ce changement de pied est surtout une manœuvre de diversion de la part du chef de l'État. Diversion qui intervient, explique Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain, au moment où le drame des migrants prend une tournure politique.
Les réfugiés, la façon dont État et opinion publique font face à leur afflux également dans la presse ce matin.
Avec un retour évidemment sur les différentes initiatives qui ont marqué le week-end, notamment sur les manifestations de solidarité samedi à l'égard des réfugiés, mais aussi sur les maires d'accueil de ces migrants qui ont répondu à l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur, parole leur est donnée dans Libération ce matin. Mais on retiendra surtout une ode à Mutti Merkel, Maman Merkel, signée Dominique Moisy, professeur au King's College de Londres. Dans les Échos, Dominique Moisy se demande comment l'Allemagne est passée en 70 ans des ténèbres à la lumière, comment ce pays est devenu l'honneur de l'Europe, comment le rêve allemand s'est substitué au rêve américain. Une réponse, une seule pour lui, Merkel. Ce sont, dit-il, les événements qui font les hommes et les femmes politiques. Helmut Kohl, que François Mitterrand jugeait si peu cultivé et sophistiqué, a su faire face à ses responsabilités nouvelles au moment de la réunification de l'Allemagne. Aujourd'hui, dans l'urgence, écrit-il, Angela Merkel ne calcule plus, elle suit son instinct et ce que lui dicte sa conscience. Elle ne se demande pas elle, si elle risque de perdre les prochaines élections. Elle fait de l'Allemagne la première puissance morale de l'Europe. À tous, elle doit servir de boussole, affirme Moisi. Une réaction peut-être de votre part. Vous avez évoqué, Raphaël Glucksmann, tout à l'heure, les panneaux brandis par les réfugiés aux frontières de Hongrie. Merkel, ça doit être effectivement aujourd'hui une boussole pour tous, pour tous les dirigeants, au moins parce qu'ils doivent dire ce qu'ils veulent faire.
Sur cette question précise, parce que on pourrait parler de Merkel sur d'autres questions et on serait sûrement pas d'accord. Mais là, ce qui est évident, c'est qu'on a envie dans un paradoxe total. C'est-à-dire qu'on a au pouvoir une droite allemande qui assume un discours d'accueil, qui assume des valeurs universelles, et en France, une gauche, censée être une gauche en tout cas, qui est restée complètement à faune et semble à la remorque et à la traîne de la CDU. C'est à mon avis... C'est pas une question de personnel politique, c'est une question fondamentale des valeurs qui dominent la société et le débat public.
C'est pas toute la droite allemande, hein. On entendait tout à l'heure dans le journal que la CSU bavaroise commençait à grogner face aux décisions politiques fédérales et à l'afflux de réfugiés. Un mot là-dessus, Nicolas Barrès, sur l'exemple Merkel.
Alors, je pense que ce qui est intéressant dans l'Allemagne, et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, c'est pas seulement Merkel et sa réaction, mais c'est aussi la mobilisation de la société civile qui est assez impressionnante. Et donc en Allemagne, on a, même si par ailleurs il y a des actes de violence, mais qui restent pour l'instant minoritaires, on a quand même cette double mobilisation des dirigeants avec une vraie politique et des vrais moyens, et puis de la société civile. Là où il y a une limite, c'est que, comme je l'ai dit, les deux idées fondamentales, c'est que l'Europe va accueillir 1 million de réfugiés, qu'elle le veuille ou non, cette année. On ne pourra pas faire ça éternellement, et que par ailleurs, à l'inverse, on ne peut pas, pour l'instant, arrêter le flot. Donc, au-delà de l'accueil, et qui est très important, ça a été dit, il va falloir imaginer une politique européenne et une politique et une stratégie vis-à-vis, notamment, des deux pays qui posent le plus de problèmes aujourd'hui, et qui sont la Syrie d'un côté et la Libye de l'autre.
On va en reparler dans la presse enfin ce matin. Hélène Jouin, un champion qui se prépare à sa vie d'après.
Un gagneur sur le terrain qui a l'ambition de devenir très vite un gagneur dans les affaires. Il s'agit du basketteur Tony Parker qui a égalé hier la légende Nikos Galis en devenant le meilleur marqueur de l'histoire des championnats d'Europe. Mais dans le magazine Society, à qui il accorde une longue interview, on comprend donc que Tony Parker ambitionne surtout de marquer de son empreinte le monde des affaires. Il a un modèle, Lacoste ou Stan Smith. Moi, je savais même pas que c'était un joueur de tennis, confesse-t-il. Un livre de chevet, celui de l'ancienne star du basket devenue milliardaire, notamment grâce au café Starbucks, Magic Johnson. Bref, business et juste business, car ne demandez pas à Tony Parker une opinion politique, il n'en a pas. D'abord parce qu'il part du principe que dans ce monde, tu ne sauras jamais tout, dit-il. Et puis enfin, il est convaincu qu'aucun président ne fait exprès que l'économie se casse la gueule. Ils font tous du mieux qu'ils peuvent, affirme-t-il un petit peu naïvement. Tous, pas sûr. C'est en tout cas une pirouette pour vous signaler un article du quotidien italien La Repubblica, repris cette semaine dans Courrier International sur le maire de Rome. Il est tellement absent que même sa démission passerait inaperçue. Ah. Commence avec drôlerie Francesco Merlo qui pointe donc les absences répétées d'Ignacio Marino, le maire de la ville éternelle qui est jamais là, qui est aux Caraïbes, qui est à Philadelphie, qui est à Boston, qui écrit ses mémoires. La ville est secouée par un tas de scandales, mais lui n'est jamais là. Alors en attendant, la ville a été mise sous tutelle par un super préfet qui désormais administre la ville. En tout cas, c'est de quoi peut-être pousser Tony Parker à réviser son optimisme rafraîchissant sur les dirigeants politiques. Non, ils ne font pas tous tout ce qu'ils peuvent, sauf à considérer qu'Ignazio Marino rend service à sa ville en étant aux abonnés absents.